tout ça là. Ça va?
Ça va.
Et toi?
Ouais, ça va.
Salut.
J'imagine dans mon pays, vous êtes arrivé là aujourd'hui et que vous n'avez pas de connexion avec les citoyens de mon pays. Tu vas imaginer comment ça va se passer. J'allais être isolé.
Mais attends, attends. Je ne peux pas me créer. Pas avec un personnage bien taré de Tchernobyl.
Il n'y a personne au monde qui est sans papier. Chaque personne a la carte d'identité de son pays, mais c'est un système mis en place pour donner de vulnérabilité de d'autres personnes.
Bonsoir, vous écoutez Radio Grand Papier, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Ce soir, nous revenons sur le projet Idées Noires du collectif Baraka Grafica. Le studio Baraka Grafica est un studio de bande dessinée actif depuis 2021. Composé de 8 artistes, il est né de la rencontre entre des militants de la Voix des Sans-Papiers de Bruxelles, la VSP, et de jeunes autrices émergents bruxelloises. Le collectif construit un récit en bande dessinée à plusieurs mains et d'après les témoignages de ses membres sans-papiers. Les entretiens que vous allez entendre ont été enregistrés lors de discussions en dehors du studio avec les aléas du réel. Les prises de son ont été réalisées à l'occupation de la Voix des Sans-Papiers et durant le festival en plein air, La Vignette, en juin dernier. La bande dessinée Idées Noires, du collectif Baraka Grafica, a été publiée chez Frémok et vous pouvez la retrouver dans toutes les librairies indépendantes.
Moi, c'est Carnot, je m'appelle Carnot Dia, donc de la Voix des Sans-Papiers de Bruxelles. Donc, je suis un des fondateurs de ce mouvement qui a été créé en 2014. Donc, pour membre du projet Yannabar, de la création Baraka, projet Baraka. Donc, je suis artiste comédien aussi, je suis instructeur de jeu.
Moi, c'est Simon Voila. J'ai étudié illustration à bande dessinée à Saint-Luc et j'ai rejoint le studio Baraka en septembre 2021.
Moi, c'est Agustin David. Et je suis artiste plasticien et j'ai rejoint le groupe Baraka en 2021.
Margot Préham, illustratrice, autrice de bande dessinée. J'ai rejoint le studio Baraka en octobre 2021.
Moi, c'est Amandine Berthollet, je suis autrice de bande dessinée et j'ai rejoint le collectif au printemps 2021.
Moi, c'est Alberto, je suis membre du collectif Voix des Sans-Papiers Bruxelles depuis sa création en 2014.
Qu'est-ce qui vous a réuni et motivé à vous lancer dans le projet alors que vous aviez tous des horizons différents en 2021?
En fait, moi, si je peux dire l'orientation de Baraka, comment ça s'est fait, donc c'est à travers Émilie, qui est un de nos soutiens, donc il nous a mis en contact avec Dizou et Thierry. Donc c'est à travers ça qu'on nous a proposé d'apprendre à dessiner. Au début, c'était ça le but. Donc il y avait presque une cinquantaine de personnes, donc on s'est mis d'accord pour essayer de participer dans ces trucs. Moi au début j'ai venu des fois, une fois, je peux rester 2 semaines sans venir. Donc bon, comme moi le dessin ça ne m'intéressait pas beaucoup aussi, j'étais pas quelqu'un qui était chaud à faire du dessin. Mais au fil des mois qu'on est passé ensemble, j'ai commencé à avoir goût au dessin, donc apprendre aussi à dessiner. Donc à travers avec l'intégration de Marco, Amandine, Simon, Augustin, donc des gens qui ont venu aussi nous apprendre à dessiner, ils nous ont aussi poussé à vraiment aimer à dessiner. Donc c'est à travers ça que le projet, j'ai intégré le projet avec des amis Alberto et Taslim et Khalil. Voilà.
Et aujourd'hui, c'est super, mais ça n'était pas si facile de pouvoir faire collectif. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus?
Quand j'étais étudiante à Saint-Luc, il y avait eu des groupes de travail, de dessin avec des personnes sans papier, et donc mais qui c'était un peu qui était un peu resté très ponctuel et avec du mal à mener un projet un peu sur la longueur. Et donc quand Thierry m'a proposé de rejoindre un projet qui devait s'étaler sur un peu plus de temps, voilà, j'étais intéressée, donc j'ai rejoint le groupe. Je ne sais pas si...
Justement, moi je suis Alberto, je fais partie aussi le membre collectif VSP Bruxelles. Et donc depuis sa création, comme mes amis ont dit en 2021, on a eu la rencontre aussi de cette de nouvelle aventure. Mais ce qui c'est que nous ne sommes pas des dessinateurs aussi pendant cette rencontre. Donc on s'est pris quand même à discuter plusieurs reprises. Mais ce qui nous motive aussi, parce que nous, au sein des collectifs, on a besoin de vraiment, en termes de sensibilisation, en termes de visibilité, et partout. Donc c'est pour ça aussi, par tous les projets, qu'on se trouve impliqués. Donc ça nous permet aussi d'avoir cette motivation d'impliquer dans le projet Baraka. Mais on n'avait pas rendu compte aussi au début que si on avait ce projet Baraka graphique depuis 2014, ça pouvait nous donner quelque chose beaucoup. On a perdu vraiment à ce côté-là. Mais quand on a commencé le projet, donc c'est comme je dis, la difficulté qu'on a eue, comment à faire des dessins. Donc à partir de là, et moi je me disais que bon, écoute, on va aller perdre le temps pour faire des dessins, et le temps est passé. Mais après, on se trouve en bon groupe. Donc au sein de notre collectif aussi, on a toujours dit c'est une maison de famille, c'est une maison de grande famille qui est ouverte pour tout le monde, comme accueillir les gens, etc. Je pense que ça aussi, ça aide beaucoup en termes de cette rencontre pour avoir avancé. Parce que c'est pas évident aussi de rencontrer d'autres personnes et tout de suite là, et pour se concrétiser aussi, pour s'avancer. Mais nous, on a habité aussi de cette rencontre, etc. pendant des années. Ça nous facilite à tout l'endroit qu'on arrive. Et on n'a pas de problème de rencontre, on n'a pas de problème de compréhension. Donc à partir du moment qu'on a commencé la prose et on a commencé le journal des planètes de les amoureux, c'est là qu'on a essayé de partager en deux. Et pour savoir, mais on a fait comme la loterie. Si mon nom est sorti avec une autre personne, ça veut dire qu'on va travailler ensemble. C'est comme ça qu'on avait commencé. Et puis pour avoir l'expérience d'abord, et qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, j'avais eu la difficulté, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme le dessin? Et j'ai fait n'importe quoi, mais après on m'a dit que mais c'est bon. Et j'ai dit, mais écoute, c'est... Donc ça nous motivait aussi, la planète de les amoureux, ça nous motivait. Et on a rendu compte aussi qu'avec la BD, on a attiré beaucoup de public. Comme la romane l'a dit à Lyon, on arrive à gagner le prix Orcas, alors qu'à Bruxelles, on n'a pas l'aïe d'abord, mais on espère qu'un jour ça va arriver. Mais actuellement, on a vraiment se motivé beaucoup plus que jamais. Et puis le projet aussi, notre objectif, comment transmettre aussi cette dessin-là au sein de d'autres collectifs, parce qu'on a beaucoup, la communauté des collectifs là, à Bruxelles ici, qui ne font pas aussi ce que nous on fait aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on peut dire, pour nous, on a un groupe de familles là aujourd'hui qu'on a, à 8 personnes. On doit contenir notre histoire, et surtout, on dit... Par exemple, on rencontre notre histoire partout à Bruxelles, en Europe ici, mais qui est meilleur positionné pour rencontrer l'histoire? C'est nous-mêmes d'abord, avant d'avoir quelqu'un d'autre qui rencontre notre histoire. Donc c'est quelque chose de réel, ce qu'on rencontre, ce qu'on fait comme le dessin, ce qu'on écrit. Donc pour nous, c'est très important quand même d'avoir de contenu avec cette...
Du coup, merci. Alberto, tu parlais donc du collectif, et en fait, je pense qu'il est important de savoir que donc ce collectif, il se réunit dans les locaux de la Voix des Sans-Papiers. Je pense que la plus grosse difficulté de cette lutte, c'était d'abord d'assurer un toit à tout le monde. Et donc, le fait de faire maison, c'était le premier élément de la lutte. Donc, le fait que des personnes dessinatrices avec un bagage supérieur des arts en Belgique fassent la démarche d'aller là-bas et de se mettre dans les conditions de vie et d'accueil créées par VSP, c'était hyper important. Et donc, il y a un espace dans ce bâtiment qui est à XL, qui est la salle où vous dessinez. Et le studio Baraka, il est un peu défini comme un studio de bande dessinée expérimentale. Historiquement, les studios de bande dessinée, c'est un modèle plutôt ancien. C'était plutôt un modèle économique et c'est pas du tout européen. C'est vraiment des modèles issus de l'industrie américaine et japonaise, du côté des comics ou plutôt du côté du manga. Et donc là, il y a comme une espèce de réappropriation du terme.
Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous veut parler plus du mot studio, au-delà de tout le projet Baraka, pour voir un peu, justement, Thierno, tu parles du fait que quand le projet a commencé, il y avait cette idée d'être nombreux, d'apprendre à dessiner, puis il y a quand même un moment où vous devenez 8, et il y a cette régularité. Est-ce que vous pouvez parler de ce rythme que vous avez pris ensemble?
Je ne sais pas si c'est par rapport au mot, mais quand Thierno le disait, je pense que c'est ce qui me différencie aussi d'autres... studio et comics ou manga, parce qu'en enfin, en fait on n'avait pas un but précis. Quand on a commencé à se voir, justement on avait juste envie de partager et tout s'est créé par le quotidien. Enfin, on se voyait quasi toutes les semaines, dans le quotidien, donc on a créé un lien et puis le projet il est apparu dans ces échanges, mais ça n'a jamais été un but. Et donc enfin, je pense aussi que c'est
il y avait beaucoup de gens qui étaient ici, donc il y a certains qui sont, c'était des étudiants aussi, il y a certains qui ont eu des contacts dans d'autres pays, il y a des étudiants même qui étaient ici qui disaient qu'ils ont allé au Sénégal pour étudier là-bas, donc ça veut dire qu'il y avait des personnes qui étaient au début là-bas, mais après ils sont partis. Donc après, au fil des mois, les personnes commencent à diminuer jusqu'à ce qu'on trouve à 8 personnes. Donc après, il y a des gens qui sont intégrés comme Augustin, Margot et Simon. C'était les plus motivés, on peut dire, qui pouvaient rester dans ce projet. Donc eux-mêmes, c'est chaque fois, c'est eux que tu voyais plus dans les pour les semaines, avec eux qu'on partageait beaucoup de choses. Donc c'est comme ça qu'on a créé les liens, quoi. Donc maintenant on est devenu comme une famille, donc espérons que ça va continuer encore des années encore. Hein. De toute façon, un jour on va se séparer, mais avec de bons termes, quoi. Chacun va être quelque part, mais on va avoir des contacts. Parce qu'on ne va pas rester aussi éternellement entre nous, tous les 8, à travailler ensemble. Il y a un moment, moi, peut-être je vais me trouver dans mon pays, au Sénégal, en train de faire autre chose. Je vais peut-être quitter l'Europe pour aller au Sénégal. Je ne pense pas revenir encore en Europe.
Et après, peut-être que pour ce qui ressemble un peu au mot studio, ben, c'est sûr qu'on dessine tous pour un seul et même projet. Mais on même s'il y a un style graphique qui ressort, on s'autorise chacun à mettre nos univers et après on vient les uniformiser par des nuances de gris. Et après, ce qui va différencier aussi, je pense, du studio traditionnel, c'est que bah, pour le coup, il n'y a pas du tout de question de rentabilité, vu qu'on a mis 4 ans à faire une BD, c'est un peu mouillé, quoi.
Par rapport à cette idée des partages, je pense que pour nous quatre, qui on sort de cette école d'art, c'était un gros challenge aussi de travailler en équipe. On n'avait pas tout à fait, on n'a pas l'habitude, souvent dans la bande dessinée, comme Romain disait, c'est un médium très solitaire où on travaille souvent par soi-même dans ses propres projets. Et ici, tout d'un coup, on était, on travaille vraiment à 8 mains sur chaque dessin et chaque planche, même dès le tout début. La production de storyboard, c'est vraiment tout dans le partage et dans la communication. Mais c'est quelque chose qui n'est pas arrivé tout de suite dans le collectif. C'est vraiment comme Thierno aussi le disait au début, on se voyait juste tous les vendredis pendant des mois pour dessiner. Parfois, juste on buvait du thé, on papotait. Il y a quelque chose une confiance qui s'est créée dans le collectif, qui a produit qu'on puisse après vraiment travailler sur les mêmes planches et sans trop devoir discuter, je pense. Enfin, il y a vraiment quelque chose de lâcher prise, de quelqu'un dessine quelque chose et puis on passe la page et puis cette image, elle va après revenir à toi, mais changer. Donc chacun va donner un peu de sa part dans le dessin. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est créé aussi par ces échanges et cette intimité qui s'est créée au sein du groupe au tout début, quoi.
Je voulais revenir sur la question que Roman a posée. Donc, quand vous avez dit que le modèle qui est américain et français, donc nous au début, on n'est pas des vrais artistes. Nous, on ne connaît pas le dessin. C'était seulement un projet qu'on nous a acquis pour nous apprendre à dessiner. Donc aussi, VSP, il y avait un problème de stabilité. Tout le monde sait qu'on a fait tellement de déménagements, une vingtaine de déménagements. C'est ça qui causait beaucoup de problèmes aussi. Donc on n'avait pas un endroit, on avait des projets qu'on avait mis, mais pour les mettre à cette place, ce n'était pas facile. Parce qu'un endroit, tu viens 2 mois, 3 mois, tu quittes, tu vas. Chaque fois, il y a des déménagements, on ne peut pas finir avec des familles qui sont avec nous, des enfants, tout ça aussi. Ce n'était pas quelque chose qui était facile pour nous. Donc on a eu l'occasion là où on est, depuis 5 ans presque, on est 6 ans presque, on est là-bas. Donc on s'est dit que vraiment, c'est le seul moyen d'essayer de vraiment de poser les jalons de tous les projets qu'on voulait faire. Donc c'est pour cela que actuellement vous voyez qu'il y a beaucoup de projets que BSP actuellement de diriger. Donc il y a Yanamar, Aiguille Création, Baraka. Donc il y a tellement de projets qu'on est en train. Hier même on finit avec Canal, un projet qu'on devait faire avec jusqu'à 2027. Donc on a fini hier avec le premier année. Donc ce qui veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc ça aussi c'est quelque chose que je devais ajouter pour la question que vous avez posée concernant la méthode américaine et française. Donc voilà quoi.
Bonjour, moi je m'appelle Alidou, membre de la Voix des Sans-Papiers de Bruxelles. Moi ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été déjà dit, dessiner en collectif, c'est notre but, puisqu'on fait tout collectivement et pour que le message puisse passer assez dans les oreilles des unes et des autres. On a trouvé ces manières de travailler collectivement, c'est-à-dire voilà, dessiner ensemble à 8 mains. C'est plus différent qu'une seule personne qui s'assoit, qui dessine toute la journée et voilà, il fait sortir son BD. Mais dessiner à 8 mains, quand même, voilà, ça laisse à des gens de se poser des questions. Comment ça se fait que vous arrivez à dessiner 8 en même temps? Et en regardant le dessin, on ne voit pas vraiment qui a dessiné celui-là, qui a fait quoi là-dedans. Parce que voilà, quand on regarde, on voit un dessin qui, comme si c'était fait pour une seule personne qui a dessiné, mais alors que c'est fait collectivement. Je crois que voilà, c'est notre manière, notre méthode voilà, de différencier notre collectif en disant que voilà, BD à 8 mains, donc voilà. C'est notre force, notre message à lancer. Je crois que voilà, on ne peut pas faire plus mieux que ça, parce que nous, voilà, moi, personnellement, ça fait longtemps, même quand j'étais à l'école, je ne dessine pas très très bien. Donc, arrivé ici, on me dit, voilà, viens, on va dessiner. Voilà, je me dis, bah, pourquoi faire? Je n'ai pas besoin de dessiner, je n'ai pas assez de temps pour ça. Mais de la façon où on a commencé à dessiner petit à petit, on mélange nos dessins ensemble. Voilà. On trouve que voilà, ça donne vraiment à l'image et ça lance le message très très fort. On s'est dit, ben, pourquoi pas.
Margot, tu voulais rajouter quelque chose?
Je voulais rajouter qu'effectivement, comme le disait Tierno, le fait de travailler à 8, ça permet aussi d'avancer plus vite et de gagner du temps avec les calendriers donc de lutte qui sont très chargés. Et donc, ce qui permet de répartir de façon assez organique la charge de travail quand il y a des gens qui sont plus disponibles à certains moments, d'autres moins, etc. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, donc bien sûr, l'art peut avoir une portée politique, etc. Mais en tout cas, dans le cadre de la BD, je trouve que c'est surtout au moment où le message est délivré. Donc, une fois que le livre est fait et qu'il est porté au public, alors que là, on a l'occasion pendant qu'on le fait, pendant la rencontre, il y a, ce faire qui est ensemble, qui est qui est lui-même politique, voilà, et qui j'espère se verra dans le livre et voilà.
Donc tu abordes cette première articulation qui est entre l'organisation de la lutte et puis le travail artistique. Et justement, tu parles de visibiliser des choses. Je pense qu'on va revenir un peu plus tard à la notion de récit et quels sont-ils. Mais peut-être qu'on peut présenter La Voix des Sans-Papiers, parce que pour nous, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément pour tous. Et donc ça, je vous laisse faire, parce que vous êtes les plus aptes à présenter ce collectif-là. Qui permet effectivement une stabilité, qui permet le dessin. Parce que, comme vous l'avez déjà évoqué, dessiner, c'est un luxe de temps qui n'est pas accessible à tous et que vous avez décidé de saisir.
Peut-être si on peut parler de Vesper, La Voix des Sans-Papiers, c'est un collectif qui a été créé, qui était né en 2014. Donc, mais les objectifs de ce collectif-là, c'était... justement des personnes normalement rejetées par l'office de transit, la question administrative, la majorité des personnes n'ont pas de solution. Donc on avait cette rencontre, le premier normalement avec la caravane européenne qui est déplacée de l'Espagne, d'Italie, de France, et donc en Belgique ici à Bruxelles, le Parlement, l'Union européenne, et tout ça c'est pour passer le message aussi, pour dire que parce que ça ne va pas. Et donc à partir en ce temps-là, nous on se trouve avec à Parc Maximilien, et là se trouve face à l'office des transits. Donc nous on se trouve là, et donc du coup on a eu l'idée quand même de dire écoute, donc avec la rapport de force quand même on peut obtenir quelque chose à mettre en place. Donc à partir de là on a eu l'idée d'ouvrir l'occupation, ce qu'on appelle la première occupation qui se trouve à Molenbeek, l'épaule 2. À partir de là que la Vespe a commencé l'histoire de combat, parce qu'on savait que pour vraiment voir l'efficacité, il faut voir l'embase qu'on peut se réunir, qu'on peut organiser, qu'on peut faire tout, etc. Mais pendant cette ouverture-là, ce n'est pas seulement viser le combat, il y a plusieurs stratégies. Comment on peut faire pour l'organiser, mais tout de suite, c'est pas facile, plus de 250 personnes dans un bâtiment. C'est pas facile aussi, des sonnalités différentes, des dizaines de sonnalités. Et tout de suite, là, quand on s'est rencontré ici en Belgique, c'est pas évident. Donc là aussi, c'est notre travail aussi, avoir porté la volonté de l'organiser, prendre la responsabilité pour organiser et tout ça. L'organisation interne, extérieure, des rencontres, etc., avec les politiciens, avec les associations, avec tout. Donc on avait pu mettre ça en place. Et puis on était resté dans ces 7 bâtiments aussi 2 ans. Et après maintenant ça a commencé le déménagement, comme Tchernil l'avait dit, on a suivi plus de 20 ans de déménagement. À Bruxelles ici, on est avec les enfants et les femmes, des femmes, tout ce qui est là, et au sein des VSP. C'est un parcours qui c'est très difficile, mais ça nous donne quand même aussi le leçon, ça nous donne l'expérience aussi. Aujourd'hui, on est content d'avoir fait ce parcours, parce que dans la vie, c'est pas facile, et parfois, tant que vous êtes vivant, et tout peut passer, tout peut arriver, mais on était aussi tous unis, forte quand même. Bruxelles, on peut dire, on a fait comme des balades, parce que partout, presque la majorité des communes de Bruxelles, on avait des bâtiments. Et même à Saint-Gilles ici, on a un autre collectif aussi qui se trouve là. Donc le VESP, on est arrivé aujourd'hui en 2019, on arrive à XL. Comme Gerno il a dit, on n'avait pas de temps d'avoir réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce que parfois on peut faire 3 mois, il y a déménagement. Et parfois on peut faire 1 semaine, il y a déménagement. Donc à partir de 2019, ce qui nous a sauvés aussi là-bas, parce qu'il y avait le Covid qui est arrivé en 2020. Donc on avait déjà le 10 juste de paix déjà d'abord qu'on a insisté. Pendant le Covid, c'est que l'autorité avait interdit de faire sortir les gens quelque part là où il y a beaucoup de personnes.
à partir de là, on a eu une négociation avec le Russie du bâtiment et on est resté là jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui nous a permis aussi d'être tranquille, de suivre des projets. On a cette baraque graphique, il y a un autre projet qui s'appelle Yanamar. C'est qu'on appelle le projet qu'on a activé aussi pour avoir créé le dossier de chaque personne individuellement. Parce que si on parle de manifestation, non seulement manifester. Et si vous faites une demande, l'autorité vous questionne maintenant d'abord. Il peut vous poser la question, qu'est-ce que vous avez comme des éléments. Donc, le projet Yanamar est positionné. Et là, on ça, c'est des personnes aussi européennes, belges, qui a porté le volontaire de faire des accompagnements, des binômes, mais un binôme ensemble. Mais c'est nous-mêmes d'abord qui faisons la formation avec l'expérience qu'on a et notre vécu et tout ça, etc. On a aussi les avocats aussi qui fait des sciences juridiques. Et donc, les avocats, ils peuvent parler de côté académie et nous, on peut parler de vécu et de l'expérience. Donc, c'est des parties différentes, mais tout est complété. Il y a les assistants aussi qui rendent sur place aussi pour avoir quand même avoir du soutien de cette formation. Donc ça aussi, depuis qu'on a commencé le procès, on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont obtenu leur papier aussi à travers comment construire le dossier béton là, et ça nous a aidé beaucoup aussi ce côté-là. Et aussi, on a notre projet qui, comme celui d'hier, Exil à Création, qui est passé hier au canal, vendredi et samedi, toute la journée, donc on était avec eux. On a d'autres projets aussi qu'on appelle la Vespe Logement. Et Vespe Logement, ça veut dire qu'aujourd'hui à Bruxelles, on a plus de 5 occupations, qu'on peut parler plus de 600 personnes. Et Vespe accompagne aujourd'hui avec des conventions, mais non seulement la convention, mais comment l'accompagner aussi pour l'organisation interne, extérieure aussi, parce que c'est fait partie aussi de notre expérience, comment la transmettre aussi à d'autres personnes et pour qu'ils puissent s'organiser aussi pour être autonomes aussi, indépendants. Mais c'est surtout comment avoir aussi des parties d'intégration aussi, parce que si on a une base, ça fait partie aussi d'avoir, avec les activités à la maison, ça fait partie d'intégration que nous impose ici à Bruxelles. Je pense que quand quelqu'un est là.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Ils ont partagé Africa sans nous connaître.
consulter. Il s'étonne que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandingue. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
Qui a au sein des associations qui ont pu se stabiliser parce qu'il y a eu à un moment donné une occupation qui a pu fixer la géographie collective. Mais donc au-delà de la lutte, de tous les projets de lutte, c'est-à-dire tous ceux que tu as évoqués, pour revenir au projet Baraka Grafica, je pense que depuis 4 ans, il y a quand même eu tous des enjeux éthiques. Il y a une éthique de la relation, il y a comment faire récit ensemble, quel récit on choisit. Et donc utiliser la BD pour visibiliser les luttes, mais donc au sein même du collectif, il y avait beaucoup de questions, des grosses réflexions de comment on fait pour mettre tout le monde au même niveau, comment on rémunère ce temps qui est compliqué à dégager. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les problématiques éthiques que vous avez rencontrées, parce que on peut appeler ça problématique. On est très heureux d'être ensemble aujourd'hui, d'avoir traversé tout ça. Mais j'aime bien l'idée que c'était franc et fragile, c'est-à-dire qu'on était honnêtes tous ensemble dans un espace, mais que rien n'était gagné. Le fait que ça ait tenu sur la durée, c'était un pari.
Oui, je pense qu'on était très bien accompagnés dès le début, justement avec les collectifs d'Exil et Création. J'ai l'impression que quand les groupes ils s'est formé, il y avait déjà toutes ces questions par rapport à la légitimité de récit, aux droits d'auteur, à la voix qu'on donnait aux personnes impliquées dans le projet, et la façon de comment rémunérer aussi tout le monde de façon égale. On était très bien accompagnés. Je pense qu'on a travaillé en équipe pour ça. On a eu aussi une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous a aidés aussi, parce qu'on parlait du temps dégagé qui est toujours difficile, mais quand on sait qu'il y a un certain argent qui peut être assigné à tout le monde, ben en fait, à ce moment-là, en fait, c'est pris comme un travail. Et donc là, les temps qu'on dégage pour ça, c'est compté comme un travail. Et aussi, y a eu beaucoup de questions par rapport à la façon de rémunérer des personnes sans papier. Il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est pas possible. En fait, il y a plein de façons et moyens d'arriver à faire ça, et que ça soit tout à fait légal.
On parlait pas d'argent, donc au début c'était pas quelque chose que nous. Mais au fil des années qu'on a passé avec ces gens-là,
Maintenant, on a compris qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc, il y a Exil et Création.
Tu veux dire dans la globalité des projets artistiques qui viennent régulièrement solliciter la voix des sans-papiers, ouais. Le théâtre
Tout ça, parce qu'on a eu des expériences qui se sont passées. Donc, ça aussi, ça nous a servi aussi d'avoir des idées sur nous aussi. Donc, c'est pour cela même qu'on a créé l'Exil et Création pour essayer vraiment...
Le projet Baraka Graphica se lance. En fait, il y a beaucoup de problématiques dans le secteur culturel qui, effectivement, parfois rafle plein de subsides pour raconter les récits d'exil. Mais effectivement, il y avait un rapport de force, même dans le secteur culturel ici en Belgique, qui ne prenait pas soin, en fait, des récits d'exil et surtout pas des personnes qui montaient sur scène pour les partager. Partager un récit d'exil, c'est répéter des traumas. Pas avoir d'accompagnement psychologique, c'est souvent faire du misérabilisme, ça peut partir de très bonnes intentions, mais souvent c'est très violent pour les personnes qui n'ont pas l'appui nécessaire une fois que l'œuvre est terminée ou que la pièce est terminée. Et là, c'est pour ça que je pense que c'était hyper important de revenir sur les modalités de financement, parce que il y a toujours un rapport de force entre quelqu'un qui sort d'une école d'art diplômée et qui va travailler avec une personne en situation irrégulière. Et donc voilà, le modèle de Baraka Graphica, c'était de dire en fait le projet pourra commencer que quand on aura trouvé une manière de faire une bonne pratique ensemble. Et c'est un chantier en cours, c'est un chantier qui n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de questions à poser, je suis pas sûre qu'on tout soit résolu, mais c'est un chemin qu'on parcourt en tout cas ensemble, et ça c'était très important. Et je pense que ce serait chouette d'aborder la question des récits, parce que je me souviens qu'au début, donc les ateliers, tout le monde dessinait, mais il n'y avait pas d'envie de raconter les récits pour d'excellentes raisons. Et puis à un moment donné, Halidou et Tess, ils m'ont dit ok, en fait on va raconter notre histoire, c'est la nôtre, donc c'est nous qui la racontons. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est opéré. Et puis là, la bande dessinée qui va sortir en octobre, elle retracera 4 parcours jusqu'à cristalliser la rencontre autour de la voix des sans-papiers. Peut-être que vous pouvez réagir par rapport au choix de finalement avoir quand même décidé de raconter le voyage.
Bon, avant de donner la parole à Khalidou, je vais ajouter une chose. Donc, il y a une chose aussi, parce que les récits, c'est un peu difficile à rencontrer. Une personne qui se porte volontaire pour dire que je vais rencontrer mon histoire, souvent, ou à l'Office des étrangers, souvent, quelqu'un peut rencontrer son histoire, on lui dit carrément qu'on ne te croit pas. Souvent, c'est les réponses qu'on donne aux récits des gens qui sont là-bas. Donc, c'est un peu, c'est la même chose qui se passe partout même. Maintenant, nous, ce qui nous a donné l'idée même, c'est le fait de démontrer, de casser leur méthode de dire que c'est pas vrai, c'est pas si. Nous, à travers des images, un parcours qu'on va faire à travers des BD, on va rencontrer. Parce qu'il y a une population de la Belgique aussi qui n'est pas au courant de certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés sur la migration. Donc, c'est à travers ça aussi, nous, on essaie de donner la vérité telle qu'elle est. Comme ça, là, s'il y a des gens qui achètent le livre pour regarder ce qui se passe, là aussi, ça va toucher d'autres personnes qui vont aussi nous permettre de faire une sensibilisation. Quoi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Mais le fait de rencontrer un Russie, c'est pas facile. C'est pas facile de rencontrer nos Russies. Tu l'as raconté tellement de fois que chaque fois que tu viens, tu racontes la même chose. Ça finit par faire des traumas. Quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Quoi.
Eh bien, comme tu disais tout à l'heure, Roman, au début, voilà, on dessinait seulement, voilà, chacun vient, il fait son bonhomme, voilà. On s'est dit, pourquoi ne pas parler de quelque chose qui fait le lien dans notre lutte. Donc, l'idée des récits est venue, voilà, pourquoi ne pas rencontrer notre parcours, voilà, comment on a fait pour arriver ici, pourquoi, voilà. Puisqu'on parle à l'Office des étrangers, quand on rencontre notre récit, on ne croit pas, on dit on n'a pas assez de preuves, on n'est pas clair, voilà, les dates ne sont pas claires, on n'est pas précis. Donc voilà. Plusieurs fois aussi, on a rencontré nos histoires, voilà, les gens qui viennent en disant que voilà, on va vous visibiliser, voilà, la lutte, voilà, rencontrer votre histoire, on va vous écrire un livre, et voilà, vous allez être connus. Ça a tellement fait plusieurs fois, moi je n'ai eu ce cas. Et je rencontre mon histoire à quelqu'un qui, je pense que voilà, ça fait partie de la lutte, mais au final, voilà, cette personne peut aller utiliser cette histoire à son propre, comme si voilà, il vient de créer un livre qui ne va même pas me servir ni servir à la lutte. Et
cette fois-ci, notre histoire, nous le gardons pour nous-mêmes, où nous pouvons utiliser pour visibiliser notre lutte à nous-mêmes. Et je me suis dit aussi, ça va être un élément de plus pour moi, où je peux apporter à l'Office des étrangers en disant, voilà, mon histoire, il est là. Je vous ai parlé, vous ne me croyez pas. Voilà, je l'ai fait en dessin, en BD. Voilà, je suis là avec mes parents quand j'étais chez moi. Et voilà, après, il y avait eu ça. J'ai pris le chemin, j'ai passé par cet pays comme je l'avais décrit. Et vous ne me croyez pas. Et j'ai passé par là, j'ai traversé la mer. Voilà, j'étais sur le bateau et je suis arrivé en Italie. Et voilà que j'ai fait le chemin de l'Italie jusqu'à ici. Et voilà mon parcours. Est-ce que je ne suis pas assez clair ou je ne suis pas assez précis cette fois-ci? Je crois que je suis assez clair cette fois-ci. Donc voilà, pour moi, voilà, c'était un élément essentiel pour pouvoir dire à l'Office des étrangers d'arrêter de dire, voilà, on ne vous croit pas, vous n'êtes pas assez clair, voilà, votre histoire, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on a vécu. Je ne peux pas aller m'asseoir en disant, voilà, écoutez, il y avait eu ça. Et à ce moment-là, je dois me filmer ou je dois me prendre des photos. Quand je vais arriver ici, je dois montrer en disant, voilà, il y a eu ça. Voilà les preuves. Ça n'a pas de sens. Ici, parce que nous, on demande l'asile, il y a plusieurs personnes ici qui ne peuvent pas rencontrer leur vécu depuis qu'ils sont nés. Tout ce qu'ils ont eu comme difficulté dans leur vie, ils ne peuvent pas le répéter devant les gens. Mais nous, on est obligés de parler et de donner des éléments clairs, les dates. On doit tout retenir, tout doit être parfait, comme tu viens d'écrire un bouquin. C'est impossible. J'ai des troubles de mémoire. Il y a des choses que j'ai dit, il y a des choses que je ne peux pas retenir. Donc, je donne à peu près. Mais si on ne me croit pas, je ne peux pas inventer autre chose. Mais avec les livres, les BD, voilà, là, j'ai quelque chose où j'ai les dates. J'ai pas besoin de parler grande chose, je les donne, voilà. La partie où tu ne comprends pas, tu me dis, je t'explique.
Particulièrement donc, marquant voilà. Moi, à l'occupation. Une personne qui était arrivée, je ne sais pas si c'était une réunion exil et création, en tout cas, c'était un moment de partage. Et cette personne a pris le journal et donc l'a regardé. Et donc cette personne dans le public était assez émue par vos dessins et avait souligné que c'était pratique que ce soit en bande dessinée parce que ça permettait de suivre le récit sans la barrière de la langue. Et donc je me demandais si, comment revenir sur cet outil qui est un outil de communication, même si c'est un projet artistique, il sert aussi à la communication au sein des occupations. Donc ça annule la barrière de la langue parce qu'il y a très peu de textes et que les dessins sont très parlants. Et donc voilà, en quoi ces récits, ils auraient pu être racontés autrement en bande dessinée, mais pourquoi le fait que ce soit de la bande dessinée, c'est si fort?
Je vais donner mon point de vue par rapport à ça. Pour moi, voilà, je vais dire, je vais bien raconter mon histoire, mais je ne vais pas que ça soit en écriture. Je veux que ça soit un BD qui parle. Voilà, c'était comme ça mon idée pour moi. Je ne vais pas encore commencer à raconter mon histoire où j'ai du mal même à dormir la nuit. Donc je préfère que ça soit en BD ou des dessins que les gens peuvent regarder et qui comprennent mon histoire.
Moi je parle même, je crois que l'image même ça parle. Donc l'image ça touche beaucoup de gens aussi. C'est comme nous les déménagements qu'on a fait. Si c'était seulement des écrits qu'on va écrire, on va déménager à telle commune, mais ça n'a pas de sens. C'est montrer les vraies images, voir comment ça se passe, déménagement, tout ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Quoi. Moi, je parle que l'image aussi, c'est quelque chose qui a été vraiment. On a essayé sur l'image, peu de décrits, mais moi, je pense que l'image aussi, c'est plus important. Quoi. Ça parle plus quoi, que le fait d'écrire une page de tout. Ça aussi, c'est quelque chose.
Quand on observe les planches de votre bande dessinée en cours, il y a une unité graphique assez impressionnante. Comment est-ce que vous arrivez à coordonner le travail à 8 mains sur une même planche? Est-ce que il y a quelqu'un ou quelqu'une qui veut partager comment vous opérez concrètement sur comment vous faites pour que tout le monde puisse dessiner sur la même page? Quels outils vous utilisez? Est-ce que vous avez des étapes un peu stratégiques pour communiquer sur quelles attentes vous avez, à quel moment du dessin? Est-ce que chacun y apporte une touche personnelle, ou il y a une équipe, ou quelqu'un harmonise le tout?
En fait, il y a plusieurs étapes et ça verra aussi une des raisons, enfin, ça rappelle aussi une des différences qu'on a avec un vrai studio, c'est qu'on est tous à la fois scénaristes et dessinateurs et co-auteurs. Et donc, en fait, on commence par établir un récit, enfin, une histoire tous ensemble, qu'on découpe en storyboard tous ensemble. Et à partir de ce storyboard, on réalise la planche, donc le crayon de papier pour avoir une meilleure, plus facilement uniformiser nos styles graphiques différents. Et donc quelqu'un commence à faire le dessin d'une planche à partir du storyboard qui a été, sur lequel on s'est mis d'accord. Et au fur et à mesure que la planche avance, on se la fait passer pour qu'on puisse la compléter.
Ben, moi, je pourrais dire, le terme de fonctionnement, c'est ce qui a donné plus l'avantage, la force aussi, de groupe en termes de consultation aussi d'idées mises en place d'abord, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc à partir de là, on a quand même quelque chose à faire, parce que si jamais on a une idée ensemble, on ne peut pas avancer. Donc à partir de qu'on construit une idée ensemble avec la storyboard, et ça nous permettrait en certain temps de comprendre de, ah oui. Donc là maintenant, on n'a pas besoin de consultation maintenant, à savoir. On devrait même si je vais être un bon dessinateur, parce que la question est que peut-être j'ai habitué déjà avec le groupe qui est là, parce que si je fais le dessin moi seul, je ne le trouve même pas d'abord que c'est joli. Mais une fois que mes amis, ils ont tous quelque chose dedans, je commence à voir que ah, tu vois comment c'est magnifique.
Et puis je pense aussi que l'avantage qu'il y a avec la BD, c'est que comme on peut un peu tout distordre, que ce soit l'espace, le temps, sur une seule et même planche, en fait, on peut raconter beaucoup d'épisodes de quelque chose, ou alors vraiment s'arrêter sur quelque chose de plus contemplatif et pas avoir trop d'action. Et puis ça nous permet aussi de donner un angle. Enfin, je pense notamment à la double planche qu'on a sur l'Office des étrangers, où on a fait tout le personnel en pigeon. Enfin, symboliquement, ça dit quelque chose. Donc du coup, je pense que enfin, ça permet vraiment de s'approprier les récits et de faire en sorte, je sais pas, de créer de l'empathie, mais différemment aussi.
Par rapport à l'esthétique aussi, il y a l'idée de l'absurdité, du dessin, de la naïveté qui fait que... Enfin, pour moi, ça, c'est plus facile aussi d'y rentrer dans des récits très durs. Ou même parfois justement par accentuer, comme Amandine disait, des moments, justement le moment de l'arrivée en Europe et toute la procédure, dès que les gars ils nous ont raconté comment ça s'est passé, bah, nous on était en mode c'est un monde de fou, enfin alors complètement ça paraissait irréel, du coup on avait envie de représenter ça comme si c'était vraiment des machines qui venaient d'un autre monde, des personnages qui n'étaient pas, puisque c'était carrément des trucs surréalistes quoi.
Et je pense qu'il y a un message qui est derrière, à travers le dessin, on peut lancer des messages aussi. Parce que souvent, on nous taxe, on rencontre nos histoires au niveau de l'Office des étrangers, mais on te dit carrément, on ne te croit pas. Donc, on essaie de casser aussi le mensonge qui est derrière ces récits qu'ils rejettent tout le temps. Alors qu'ils ne sont même pas dans le pays où le gars est venu pour rejoindre l'Europe. Donc, il y a ce aspect aussi qui est important. Donc, nous, on va essayer aussi de montrer, aussi de toucher une frange de la population qui est complètement déconnectée de la migration. Il y a certains qui sont, quand tu leur demandes certaines choses, ils ne savent même pas. Quand tu leur dis que je suis venu en avion, même ils vont être étonnés, ils vont dire, mais comment vous venez en avion alors que vous dites que vous avez des... Bon, pas pourquoi quoi. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens disent, même quand ils disent que je suis venu en bateau, ils croient que tout le monde est venu en bateau. Mais il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont pris l'avion pour venir ici. Donc il y a beaucoup d'aspects qui sont là. Donc, à travers le dessin, on va essayer de voir comment sensibiliser, donner cette fait des dénonciations. Il y a tout là-dedans. Donc, c'est des aspects. C'est pas seulement le fait de dessiner quelque chose qui est beau, mais il y a un message qui est derrière aussi. Quoi. Donc, on essaie de transmettre à la population. Quoi.
Moi, je peux ajouter, on fait ce dessin aussi plus parce que c'est vrai qu'on nous affaire souvent à faire des témoignages ou de raconter donc des choses. Donc ici, donc nous on est, comme on aime le dire aussi maintenant actuellement, donc on n'en veut plus ces témoignages qui donnent de la pitié, que les gens appellent les gens, ah, viens nous raconter tel truc. Donc il y aura des gens, donc c'est tout ça, à travers cette BD, on raconte nos histoires comme on le souhaite, quoi, comme on le veut, librement. Et vu que donc, là-bas, souvent on nous appelle à raconter des traumas ou des trucs, donc tu le souhaites ou pas, ils veulent ce thème-là, si tu veux parler c'est de ça, si tu ne veux pas c'est de ça qu'ils veulent parler, mais ici on a la liberté de raconter comme on veut, comme on voudrait que les personnes ressentent aussi, nous ressentent, même si c'est vrai, on ne va pas tout mettre, c'est un peu difficile de mettre tout ce qu'on aura voulu dans la BD, mais à travers cette BD aussi, on touche aussi certains types de populations, certains types de générations aussi, qui sont aussi sur la BD, mais surtout aussi les enfants, parce que la jeunesse, on peut dire, c'est l'avenir d'une nation. Donc on veut aussi plus sensibiliser la jeunesse, qui est souvent dans la BD, au moins de savoir à travers notre point de vue comment nous voyons la migration, les déplacements dans le monde, comment ce monde est un labyrinthe pour nous, quoi. Donc c'est tout ça aussi qu'on peut dire dans la BD, qu'on trouve cette liberté de s'évader dans nos pensées. Et c'est des bels moments aussi, comme il l'a bien dit aussi, de partager ces moments sans comme si coûte que coûte, c'est à l'office, quoi. Donc on raconte ce qu'on veut, ce qu'on voudrait. Donc c'est comme ça, quoi. On a essayé de faire la BD pour toucher d'autres types de publics, parce qu'avec VSP on a différents types d'antennes pour sensibiliser des personnes. Donc avec le Baraka Grafica, on essaie aussi d'aller dans le domaine de la BD, quoi.
Au-delà de la pratique de mythe, est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur justement le livre et le fait que quand il y a un livre qui sort, il y a quelque chose qui reste?
Oui, ce que je peux terminer, moi je peux seulement ajouter ce que Tassim disait l'autre jour à Canal. Donc concernant les gens, comme notre groupe, il y a deux qui ne sont pas encore régularisés, Alberto, Tierno, donc on pensait vraiment à ces choses-là, parce qu'il y a des fois aussi, il y a des invitations qu'on nous invite à l'extérieur, donc pour ne pas se déplacer aussi, ça aussi c'est des inconvénients, donc on essaie de sensibiliser.
Si on ne le fait pas, personne ne va le faire à notre place. Donc on a activé tout ce qu'on a activé aujourd'hui pour laisser l'exemplaire qui peut rester centaines de mille années, qu'on peut dire que le VSP il avait commencé ça. Donc l'objectif c'était pour atteindre des bonnes et mauvaises images des étrangers, mais pour donner la bonne image aussi des étrangers.
Moi je peux dire l'influence des BD, c'est vraiment c'est quelque chose, si on parle de Mensa, si on parle de et tout ce que la BD peut tirer au monde, c'est imaginable. Parce que imagine, on a là dans l'espace des Baraka Grafica, et que la BD arrive aux États-Unis, de là arrive partout à d'autres continents, et nous on a ici. Donc je pense que si on revient à la question de notre lutte, à la question de sensibilisation qu'on a toujours, avec le BD seulement, on pouvait sensibiliser des millions de personnes qu'on n'imaginait même pas, ou qu'on ne voit même pas, qu'on ne sait même pas là où ça se trouve. Mais, à moins, avec ces BD, ça peut tirer même d'abord, parce qu'imagine, les manifestations qu'on fait, on ne peut pas amener tout le monde là-bas. Mais certains, même d'abord, même s'ils sont là, ils n'osent pas aller parce que là, il y a plus de confrontations. Et mais quand tu as la BD qui est là, dans ton bureau, dans ta chambre, il te sensibilise là.
Moi, je peux dire, en conclusion, on essaye de laisser des traces.
C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous le 24 décembre. Nous ne serons pas en studio, mais nous vous concocterons quelque chose à vous glisser sous la dent, entre deux repas de famille. Bonne soirée. Politician, woman, and one of Wombo Rifaka, one of Wombo Rebecca. Babylonian, woman, and one of Wombo Rifaka, one of Wombo Rebecca. Yanon guitar, drum, numbers, Tony.
ni ranga masebeta kana mwana boss Bongo wole vibringa yetanu yeva pos Denge ayili selasi ras Lagine diego lang, lagine diego lang And mora mufang, wahoy Lagine diego lang, lagine diego lang And mora mufang, wahoy Finka rira bira, sinyo goya dang Wobo brera fan lani gawo dandang Finka rira bira, sinyo goya dang Wobo brera fan lani gawo dandang Takana barra fall out of mercy now Miskine guma fall out of mercy now Dirty Babylon gun fire burn them now Emu waman we ram efe what's going on Babylon mufang, emu waman feu Wonga belege sobore hira wonga lang Takana na fola muada mafue gang Na ya bingi sound Piano num guitar, drum num bass So niranga mase beta kana mwana boss Ongo wole mi bringa ita nuyeva pos Denge ayili selasi ras Lagine diego lang, lagine diego lang And mora mufang, wahoy Lagine diego lang, lagine diego lang And mora mufang, wahoy Lagine mi gikere nga mungwe bera So se anu baga kere nga mungwe na bera Lagine mi gikere nga mungwe bera Fule anu manike kere nga mungwe bera Lagine mi gikere nga mungwe bera Konya kinukura kwa kere nga mungwe bera Lagine migi kere nga mungwe vera Miki forenu na lo kere nga mungwe vera Nimato na, nimato lola na Nimato koya na kindi ya na kakane na Nimato labe na, nimato mamu na Nimato kaka na sigiri na kurusa na Ega nizere kore kuyega sakule subedong Ega ninkanka ega siga gabidong Ega nikindi ya ega siga funyedong Ega samba futa ega sayaberedong Piano nung guitar, drum nung bass So niranga masebeta kana mwana boss Ongo wole mi bringa yetanu yeva pos Denge ayili selasi ras Lagine diego lang, lagine diego lang And mora mufang, wahoy Lagine diego lang, lagine diego lang And mora mufang, wahoy Finka rira bira, sinyo goya dang Wobo brera fan lani gawo dandang Finka rira bira, sinyo goya dang Wobo brera fan lani gawo dandang Takana barra fall out of mercy now Miskine guma fall out of mercy now Dirty Babylon gun fire burn them now Emu waman we ram efe what's going on Babylon mufang, emu waman feu Wonga belege sobore hira wonga lang Takana na fola muada mafue gang Na ya bingi sound Piano nung guitar, drum nung bass So niranga masebeta kana mwana boss Ongo wole mi bringa yetanu yeva pos Denge ayili selasi ras Lagine diego lang, lagine diego lang And mora mufang, wahoy Lagine diego lang, lagine diego lang And mora mufang, wahoy